Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Écho.
Ben, bonjour Richard.
Aujourd'hui, il y a un phénomène sur lequel je vais parler avec toi, c'est l'effondrement, on peut dire ça, hein, quand on a perdu 70% de sa valeur, de certains GAFA.
Ah oui.
Et donc les American Fang. Parce que personne, on voyait que ça montait très haut, mais globalement, la chute est raide. Pour ceux qui étaient investis dessus, on compatit.
Oui.
Parce que Facebook, c'est moins 70.
Ouais.
Tesla, ça a à peu près ça aussi.
Oui, alors Tesla, on ne faisait pas partie historiquement, mais oui. Bon, enfin, on est d'accord.
T'es pas loin. Apple souffre pas trop.
Pas trop. Amazon, Google, Netflix, tout ça, ça a beaucoup décroché.
Enfin, ça pique quand même. Et ouais, du coup, ouais. Toi, tu t'es dit, mais c'est quoi un fang?
Ouais.
Et est-ce qu'on n'aurait pas des French fang?
Ah voilà, c'est ça. Je me suis amusé là. Voilà.
C'est quoi cette idée, cette relation de valeur de croissance, de portefeuille? Est-ce que c'est partout pareil?
Alors, j'ai publié ça, c'était un peu pour les lecteurs internationaux, pour les Américains, c'était un peu pour les titiller, quoi, c'était exprès. C'est vrai, parce que bon, en France, franchement, dans ce qu'on appelle les FANG ou les GAFA, toutes ces grandes sociétés.
Donc, FANG, c'est Facebook, Amazon, Apple,
Netflix
et Google.
Voilà, et Google, voilà. Et Microsoft aussi, qui étaient considérés dedans aussi.
FANG.
C'est toutes ces grandes sociétés de réseaux sociaux, de trucs, etc. Bon. Il faut bien reconnaître que nous, en France, sur ces trucs-là, on n'est pas très brillants. Donc, ils ont développé ça depuis 25 ans, les Américains. C'est absolument spectaculaire. Ils ont conquis le monde. Le résultat de ces boîtes depuis dizaines d'années est juste complètement fou. Quoi. À tel point qu'ils commencent à prendre la puissance de certains États. Donc, c'est complètement considérable. Okay. Et donc, voilà. Donc, on parle depuis 10 ans, 20 ans de ces fangs américains, de ce succès. Et ce sont des valeurs de croissance, au sens où y a la croissance économique est comme ça. Et eux, ils font un effet de levier sur la croissance. Donc, en fait, ils gagnent encore plus que la croissance parce que, voilà. Donc, croissance en volume, etc. Donc, voilà. Et donc, je leur ai dit, bon, ben, attention, maintenant, comme tu dis, les fangs se sont pris une grosse gamelle sur les marchés.
Donc, en fait, dit autrement, les fangs d'aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui est actuel pour faire du levier sur la croissance.
Voilà. Alors,
De tout temps, quand il y a de la croissance, il y a des sociétés qui font du levier sur la croissance.
C'est ça. C'est ce qu'on appelle les titres de croissance.
Voilà.
Donc, on a les titres qui sont, tu vois, on fait attention, on va vers des titres, de prudence, etc.
Fut un temps, c'était le pétrole, fut un temps, c'était le chemin de fer, fut un temps, c'était je sais pas quoi, mais voilà, chaque époque,
c'est growth ou value, si tu veux, croissance ou valeur. La valeur, c'est au moins, ça va te protéger. Et la croissance, ça va faire un effet de levier sur la croissance. Et parmi les titres de croissance dans le monde, ben, les titres américains de ces FANG ont été juste ceux qui ont été complètement dingues. Ah. La tech, c'est-à-dire la tech, les réseaux sociaux, ces choses-là. Et puis, bon, ben, ça se passe très mal depuis deux ans ou un an et demi, disons. Et donc, j'ai voulu parler des French FANG. Donc, je dis, c'est quoi les French FANG? Ça, c'était quand même marrant. Et j'ai dit que les French Fang n'avaient rien à voir avec la tech, mais c'était des sociétés qui avaient fait un carton total, mondial. Et quand on regarde depuis 2015 à peu près, donc 6, 7, 8 ans même, ils ont fait aussi bien en termes de rendement que ces French Fang. Donc, quelles sont ces sociétés qui ont été taillées les petits papiers sur la tête, là, on peut poser des petits pâtés sur la tête des Américains, et avec des résultats absolument spectaculaires? Eh bien, c'est évident, c'est dans le secteur du luxe. Donc, c'est LVMH, c'est Hermès, c'est Kering, c'est les grandes boîtes françaises du luxe qui ont conquis le monde. Et au même titre que les autres ont conquis dans la tech.
Et leur performance, les graphes,
la performance est exactement la même. C'est-à-dire que vous avez les American Fang dans la tech, les French Fang dans le luxe. Ils font des carrières Hermès, quoi. et les deux conquièrent le monde, voilà, et font un revenu. En tout cas, les investissements dans les deux sont tout à fait pareils de 2015 à 2021, quoi. C'est absolument spectaculaire. Bon. Et puis, ce qui se passe à partir de fin 2021 et en arrivant 2022, c'est que les American Fang se cassent la gueule complètement, et puis ils ne remontent pas, ils s'enfoncent, alors que les French Fang se cassent un peu la gueule et remontent. Donc, c'est-à-dire maintenant. Là, sur les 1 an, 2 ans qui viennent de se passer, les titres de croissance les meilleurs au monde sont plus du tout les Américains. Enfin, c'est les French Fang. Donc un peu de cocorico, quoi. Ça va. Et puis je trouve ça assez marrant parce que j'interroge les gars, ce qu'il y a toujours dans le monde des gens qui veulent être avec des titres de croissance. Parce qu'on leur dit, vous savez, c'est rentré. Bon, allez, moi j'y crois. La croissance va repartir, etc. Donc ils veulent des titres de croissance. Que si ça marche, c'est vrai que c'est eux qui gagnent.
Et ben faut acheter des 5e.
Et ben voilà, moi j'ai dit que ça. Alors. Maintenant, examinons un peu pourquoi est-ce qu'il serait logique d'aller vers ces titres-là, encore aujourd'hui. Hein. Première raison, ils sont moins chers que les titres américains. Même si les titres américains ont décroché. Ils étaient tellement chers en termes de valorisation que les Français sont encore moins chers. Pour l'instant, toujours moins chers. En termes de price earning, de price to book, etc. Donc, intéressant, déjà. Bon. Deuxième raison, si effectivement la Chine réouvre, c'est-à-dire l'économie chinoise qui a été mise sous cloche pendant 3 ans est en train de réouvrir. Bon, ben ça, c'est un truc qui est fantastique pour LVMH ou Hermès. Mais bien sûr, parce que tu as tous les Chinois, c'est-à-dire que la queue de distribution des riches Chinois, ben, la croissance va monter. Donc si la croissance chinoise monte de 10% en 2 ans, eh ben, le marché des gens qui sont capables d'acheter un Hermès, il ne va pas monter de 10%, il va monter de 50%. Parce que c'est un effet mathématique des queues de distribution. C'est-à-dire que c'est un effet de levier sur le marché lui-même.
Quand le Pékin moyen, on va dire ça comme ça.
Ouais, le Pékin, voilà, tu...
Il gagne 10% de plus, ça veut dire qu'il y a 3 fois plus d'ultra-riches.
Voilà, c'est ça. Il y a 3 fois plus.
Il y a 3 fois plus de clients pour LVMH.
Exactement. Et donc, eux qui sont sur un petit marché là-bas, mais ça explose leur truc. Donc déjà, le fait qu'il y ait une reprise de la Chine est extraordinairement porteur sur le marché du luxe. Estimation, il y a à peu près que d'ici, tu vois, on est en 2023, d'ici 2030, il y aura 100 millions de plus de gens qui seront de clients dans le marché du luxe. On va passer à 500 millions de personnes, 400 à 500
millions. Si tout se passe bien.
C'est des projections. Et d'ailleurs, je t'en aurai une grande majorité qui viendront de Chine, etc. Donc, ça veut dire que c'est un secteur qui est vraiment en croissance. C'est très amusant. C'est qu'en fait, comme ils sont dans des cycles qui sont un peu différents des nôtres, nous, on a été quand même un petit peu avancés, là, et ils sont des cycles différents des nôtres, ils sont en train de rattraper ça. Et bon, quand tu es... Et puis, bon, bah, ces sociétés françaises, elles n'ont pas de concurrence, hein, je suis désolé, mais enfin, elles ont un peu de concurrence, tu vois, à droite, à gauche. Mais elles sont situées dans le plus haut de gamme mondiale. Donc, ça veut dire que si tu es un Chinois ou un Russe ou un Saoudien qui veut absolument montrer qu'il a beaucoup d'argent en achetant des bagages ou je sais pas quoi, ou ses valises, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller choisir le truc le plus luxueux au monde.
Une robe à 10 000 balles qui a coûté 1 000 balles à faire.
Ah, peut-être, mais c'est la plus, peut-être, mais c'est la plus prestigieuse au monde.
Donc, et qui a été fait à la main sur une machine qu'on pilote avec les pieds parce que c'est comme ça que c'est le luxe. Quoi.
Oui, mais c'est très important de ne
une
pas...
Une machine à couture à pédale et voilà.
C'est très important de ne... Enfin, c'est un positionnement extraordinaire de ne pas avoir de concurrence plus qualitative que
ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est ultra low-tech, le luxe.
Bien sûr.
Parce que c'est tout fait à la main, c'est piqué. Limite, quand je dis la machine à coudre à pédale, ça pourrait être un argument de vente, je veux dire.
Mais c'est même des trucs faits
à la main. Tu leur parles de... Ils regardent ça, ils disent, mais c'est le niveau zéro de l'efficience, quoi.
Zéro de l'efficience, mais extraordinairement désiré par le monde. Et puis, autre chose aussi, moi, je pense, c'est que pas de risque de concurrence. Donc la concurrence n'existe pas, alors que les concurrents des GAFAM en Chine, il y en a sur tous les secteurs. Hein. Donc ça veut dire que ce secteur technologique est en terrible concurrence, pas LVMH ou Hermès ou Kering. Deuxième chose, très peu de risques politiques.
Oui, le delay des foulards à Hermès, vous n'allez pas en prison.
Xi Jinping ne va pas s'énerver parce qu'ils ont vendu de plus de carrières Hermès. Non, ils s'en foutent complètement. Par contre, sur les...
La tech sur l'IA.
Sur la tech sur l'IA, là, ça va se tâter. Donc, vous voyez, en termes de placement, écoutez, je pense que l'horizon est bien ouvert sur les French Fang. Et donc, voilà.
Et d'ailleurs, plus large que ça, dans la lettre qu'on corrédige ensemble, ça, on se dirige petit à petit vers les pays émergents. Parce que, justement, on voit aujourd'hui une dichotomie qui s'installe entre les pays occidentaux, riches, traditionnels, et les pays émergents qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils s'organisent et qui sont en train, dans cette régionalisation de la mondialisation, de se réorganiser pour créer leurs propres valeurs. Et ce qui est très rigolo, c'est que cet article-là, ça montre aussi d'où vient la valeur des French Fang. Elle vient des pays émergents.
Elle vient de plus en plus des pays émergents, bien sûr. Et parce que, justement, par l'effet de levier sur la croissance des très riches, qui montent beaucoup plus vite en proportion, il y a toujours très peu, mais ils montent beaucoup plus vite en proportion que le revenu moyen, ils ont le marché naturel de ces sociétés-là, c'est ces pays émergents, dont le revenu est en train de monter, moyen, il est encore très loin derrière le nôtre, mais il est en train de monter. Donc ça veut dire que la proportion de la population qui est capable d'acheter ces trucs-là est en train d'exploser. Donc pour eux, c'est un boulevard en termes de création de valeur. Il est absolument naturel qu'ils se penchent, qu'ils se portent là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'en 2030, tu auras plus de 50% du marché du luxe qui sera en Chine. Donc c'est te dire que c'est un marché absolument considérable. Et tout autour, hein, parce qu'il y a beaucoup de création de richesses. D'ailleurs, j'ai ma fille qui est allée à Dubaï l'autre jour. Elle est revenue, elle m'a dit « Je ne me suis jamais senti aussi pauvre de ma vie. » Incroyable.
Alors qu'elle vit
en Angleterre, etc. Ouais. Etc. C'est normal si elle vit dans un pays en Angleterre. Elle dit, je ne me suis jamais senti aussi pauvre de ma vie. C'est-à-dire que tu as tous ces magasins de luxe qui sont présents partout, qui sont ostentatoires, et avec les populations mondiales de gens riches qui viennent là et qui consomment ces trucs-là, parce que c'est une histoire de représentation d'eux-mêmes. Mais c'est très impressionnant, hein. C'est-à-dire qu'on voit que les pays émergents ont une classe d'extrêmement riches qui est en train de monter violemment.
Et d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, ça nous confirme aussi dans la stratégie qu'on est en train de prendre sur la lettre, dans les portefeuilles de la lettre, c'est qu'on réoriente petit à petit vers les marchés émergents. Et quand on voit l'impact des French Fang dans ce secteur-là, bah, ça confirme, en fait, c'est-à-dire qu'on est on est dans la bonne direction.
Je pense. Donc, on ne sait jamais de quoi le monde sera fait, mais en tout cas, les tendances sont assez claires.
On voit aussi des degrés de liberté pour l'innovation ou la libre entreprise qui est aussi plus élevé dans ces marchés, parce que en Europe on pense tout de suite réglementation, et ça, la réglementation, c'est un symptôme de la conservation du pouvoir. Quand on a le pouvoir, on n'a pas envie de se laisser picoter les fesses par des nouveaux entrants. Donc à chaque fois qu'il y a un truc qui fait, on va réglementer tout ça, alors que dans ces pays là alors c'est très contrasté, mais moi je connais des gens qui sont partis à Dubaï, qui sont partis sur tout un tas de secteurs, ils sont libres, en fait, parce qu'ils ne gênent personne. C'est-à-dire qu'ils viennent manger les réglementations européennes et américaines parce qu'ils font ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, entre guillemets.
Bien sûr, bien sûr.
Mais
c'est des ports francs.
Dubaï,
ce sont les ports francs, c'est comme
des ports francs. Ou... Mais ils s'en foutent. Ils n'ont pas les baleines, ou ils n'ont pas les apparatchiks, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont déjà en place, et ils menacent personne.
Mais en termes de business, c'est quand même assez surprenant de se dire, j'aurais pensé il y a 20 ans, que Dubaï est peut-être l'endroit au monde le plus libre pour faire des business. Ce qui est incroyable.
C'est bizarre, parce que les mecs, quand même...
Mais c'est le cas, c'est le cas.
La justice à Dubaï, elle est expéditive, quand même.
Elle est expéditive si tu fais des choses qui ne leur plaisent pas dans le domaine religieux. Mais dans le domaine du business, c'est... C'est beaucoup, beaucoup plus libre. Et ils font exprès. C'est un port franc. Ils te disent, vous voulez faire du business? Vous voulez monter des cryptos? Vous voulez acheter des... Voilà, vous voulez... Allez, venez. Allez développer votre truc.
Faites.
Construisez. C'était l'histoire. Construisez le lien long. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'on a des zones qui sont comme des ports francs, qui sont dans ces pays-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une mentalité qui est différente.
Et dans un pays très conservateur.
Très conservateur.
Donc, c'est très choquant.
C'est pour ça que c'est très surprenant. C'est pour ça que c'est incroyablement surprenant.
Le monde est incroyable.
Le monde est incroyable. D'ailleurs, ces développements ont une influence sur leur côté conservateur, qui l'est de moins en moins. Ils sont en train d'atténuer leur côté conservateur parce qu'ils voient que le business est en train de monter, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas avoir un système mondial qui est complètement contrôlé de partout, tu vois, que tout le monde contrôle. Pas possible. Tu auras toujours certains qui vont en profiter en se disant je vais laisser les gens un petit peu développer leur truc, et ils vont en profiter parce qu'il va avoir un afflux à Dubaï, par exemple. Il y a beaucoup de Russes qui vont là-bas. Mais pourquoi il y a beaucoup de Russes et qui achètent beaucoup d'immobilier? Et pourquoi? Parce que les Européens, les Américains ont sanctionné les Russes. Voilà, c'était tout. Donc avant, ils auraient été achetés un appartement, je ne sais pas, Avenue Montaigne ou à Londres. Et puis aujourd'hui, ils disent non, mais je ne vais pas acheter Avenue Montaigne, parce que si ça se trouve, ils vont me faire piquer. Donc où est-ce qu'ils vont? Ils se disent, qu'est-ce qu'il me reste dans le monde? Où est-ce que je vais? Il leur reste Singapour, Dubaï, quelques régions comme ça. Et donc, ils y vont comme des fous. Et tu vois l'immobilier qui est en train de partir de folie.
Par contre, ce qui est assez terrible, en fait, c'est que je repense souvent à ces histoires des hommes des bateaux et des hommes des arbres.
Oui.
Et quand on a son arbre qui est planté au mauvais endroit, on n'est quand même pas bien, quoi.
Parce que
ça, c'est des trucs d'hommes des bateaux. Hein.
Complètement. Il faut pousser ces gens qui bougent, bien sûr.
Et en fait, aujourd'hui, je me demande vraiment, est-ce que c'est encore vraiment... Enfin, c'est quand même très dur quand on est un homme des arbres, qu'on est bien, on est français en France, on est bien dans son pays, on n'a pas envie de partir... Et qu'on voit tout ça qui se passe autour, il y a quand même de quoi devenir aigri, ou il y a quand même du ressentiment qui se développe, quoi, en disant mais pourquoi ils s'amusent?
Oui, bien sûr,
pourquoi
mais
ils ont droit, pourquoi
Oui, mais tu montrais dans ta dernière lettre que tu as écrite pour le mois, là, sur des initiatives locales de financement, de projets locaux, etc. Si tu es un homme des arbres, c'est-à-dire que tu es local, C'est-à-dire que tu restes chez toi, bah, tu te poses des questions locales. Et tu as encore plein de trucs à faire localement et le développer, ce que tu es en train d'essayer d'activer, et tu as raison. On le voit, des initiatives de cette nature-là. Donc là, tu proposes des initiatives de financement.
Ma grande intuition, c'est qu'en France, si on veut faire, il y a deux solutions.
Oui.
C'est soit vous êtes petit et vous êtes considéré comme un pauvre, en gros, donc quelqu'un qu'il faut aider et on ne vous embête pas. Oui. L'administration ne vous embête pas. Oui. Et ça, moi, j'ai expérimenté au début, quand j'ai monté mes premières boîtes, je n'avais pas. Et puis, non, quand tu montes une boîte en France, au bout de la première année, tu dois payer la CFE, donc des impôts.
Oui.
Et moi, j'avais pas fait de chiffre d'affaires,
puis
j'avais pas marché.
Voilà. Ouais.
Et du coup, au lieu de faire une lettre bien écrite, machin et tout, j'avais pris le formulaire, j'avais barré comme ça en me disant je n'ai pas d'argent, et j'avais envoyé un courrier écrit à la main parce que j'écris comme un chat très mal, en disant j'ai monté en entreprise à telle date, mais je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas de clients, je ne peux pas vous payer. Voilà.
Voilà.
J'avais envoyé ça par la poste.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Et ben, rien.
Rien.
Un an plus tard, il y a une nana qui m'a appelé au téléphone, servi des impôts, machin et tout. Puis de toute façon, à l'époque, j'étais à mi-temps, donc je gagnais 1200 ou 1300 balles et puis je faisais mon truc à côté. Donc je veux dire, les impôts, ils savaient que j'avais pas de sous. Et puis, elle me raconte, oui, la CFE, le machin, le truc. Il fait, mais j'ai pas d'argent.
Ça sert à rien.
Mais la CFE, mais je comprends pas ce que vous me dites. En fait, j'ai vu votre formulaire, il fait 4 pages et moi, j'ai pas d'argent. Enfin, et j'ai fait un peu le gars qui ne comprenait rien.
Ouais, ouais.
Et elle m'a dit
bon, c'est pas grave.
C'est bon.
C'est bon.
Foutez-moi. Enfin, voilà. Laissez tomber, ça va rebondir.
Bon,
Et ça, il y a cette bienveillance en France, je trouve, de l'administration où quand vous êtes fragile, quelque part, vous êtes perçu comme ça, on vous fout la paix.
Ouais, c'est bien.
En dessous des radars.
Ouais.
Et puis après, il y a le local.
Ouais.
Moi, dans le Jura, il y a des tas de gens, ils font leur business, le bois, les confitures, les machins, les trucs, les initiatives locales. Tout le monde s'en fout. Donc, il y a des espaces de liberté.
Ouais.
Mais il y a un plafond quand même.
Il y a un plafond
de verre.
Ouais, bien sûr,
attirer l'œil de, enfin pas de Moscou, mais l'œil de Paris.
Voilà.
L'œil de Paris, parce que sinon ça se passe pas.
Ouais, c'est ça. Ouais,
mais donc c'est quand même. C'est pour
on
ça.
Est parti de LVMH et puis on est.
Donc, on
a beaucoup bougé là.
Donc l'idée c'est ça quoi, c'est que les marchés émergents, en tout cas si vous ne pouvez pas bouger, votre capital le peut.
Voilà
déjà.
Ouais.
Et c'est pour ça que Didier dans les portefeuilles qu'on suit, tu commences à réorienter. Et puis moi je le fais sur le local sur des solutions de prêt et dans des projets concrètos local.
Bien sûr.
Et ça on y croit énormément. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de clé qui se passe dans cette régionalisation du monde à pas louper parce que ça choque culturellement. Et en fait, on en parle assez peu en réalité. Enfin, c'est dans les médias.
C'est compliqué parce que c'est plein de choses.
Sur BFM, on n'entend pas. Ah ouais.
ce sont des sujets très compliqués puisque c'est par définition c'est éparpillé. Mais non, c'est marrant puisqu'on parle de trucs à la fois très 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 généraux. Bon, LVMH qui est en train de conquérir les pays émergents va en profiter. Et puis ensuite, au niveau local, c'est des initiatives locales. Donc on est vraiment sur deux schémas d'investissement tout à fait différents, mais qui sont très décorrélés. Ce qui est bon pour un portefeuille.
Merci beaucoup, Didier.
Merci à toi.